France Culture.
Coucou Ellie. D'accord.
Ils ne sont pas sortis. Non, il est cher. Daisy, il a pas un peu sa pâte. Là, nous. Là, on est occupé. On va la marque.
Mais est-ce que tu veux bien qu'on te suive?
Non, on va la marque.
C'est.
D'accord.
C'est compliqué.
Alors,
là.
Tout à l'heure, Ellie.
On fait un premier passage, comme ça, elle voit.
Très bien.
On
okay.
revient.
Ok,
et on...
super.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire toutes les deux?
D'aller nourrir les oies.
D'une manière générale, avec les personnes autistes, on n'attend pas. Il faut savoir, donc, c'est pas de l'indifférence quand la collègue elle repart rapido, c'est juste que c'est pas envisageable d'attendre. Et voilà.
Et puis on espère aussi qu'elle va pas faire une crise de colère, parce que bon, c'est si elle ça. Dit arrêtez de me suivre, ouh.
Voilà, c'est ça.
Et alors ce nom, la Landemaine, il vient d'où?
En fait, il y avait une très ancienne carte locale, qui est très belle, avec une ancienne écriture, un peu couleur sépia, et il était indiqué les noms des champs. Alentour, tous les noms des champs. Il y avait un champ qui s'appelait la Landemainerie. Alors j'ai demandé au maire des Molières, est-ce que ce nom est encore usité? Il me dit non. Alors je lui dis, est-ce que nous on peut l'utiliser pour créer notre ferme? Il me dit, faites ce que vous voulez, hein, c'est disponible, allez-y. Alors moi j'ai dit, la Landemaine. Voilà. Parce que c'est aussi créer un lendemain pour, suite à des mésaventures assez difficiles. Pas que notre fille, hein. Il y en a d'autres aussi qui ont connu des parcours compliqués.
Autisme, les combats d'une vie. Épisode 4, quelle place pour les adultes autistes? Un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Cécile Lafont.
Après, surtout sur la ferme, il y a des poules, il y a deux ânes, il y a quatre chèvres, il y a des moutons et il y a des lapins. Et en fait, les résidents, au quotidien, ils s'occupent de ces animaux. Donc, ils les nourrissent, ils entretiennent les box. Et puis, vous verrez aussi qu'ils font des temps, ce qu'ils appellent de médiation animale, c'est-à-dire des activités non fonctionnelles, enfin non utilitaires directement, avec les résidents. Et donc là, on va sur le bâtiment d'hébergement. Donc, c'est réparti en trois maisonnées, donc trois maisonnées de 8 chambres. Et donc, voilà, les résidents, ils mènent leur vie hors horaire d'activité dans ces maisonnées. Voilà, on va arriver sur la première.
Ma chouette appelle.
Elle demande comment vous appelez.
Ah, Thomas.
Thomas. Ma chouette appelle.
Jérôme.
Toi t'appelles.
Cécile.
Et vous?
Olympia.
Et vous, c'est comment? Comment vous vous appelez?
Julie de la Landemaine.
D'accord. Julie de la Landemaine.
C'est ça.
Alors, en fait, chaque maison comporte deux ensembles de quatre chambres. Et au milieu... En plein milieu, il y a les espaces communs. Il y a la salle à manger, il y a le hall qui est traversant et qui donne sur leur jardin de la maisonnée. Et au milieu, il y a aussi le bureau des éducateurs. Voilà. Donc deux fois quatre chambres à chaque fois.
24 donc, adultes au total.
Oui. Alors l'idée, en fait, c'est que dans chaque maisonnée, on a une petite vie de type familial. Et puis au total, ça fait une grande famille. Avec les accompagnants, ça fait quand même une grande famille.
On va écouter quoi là, Pierre?
C'est un peu comme un jukebox. Ouais. Comme toi, Lucie, elle aime la musique.
Oui.
Ouais. Et c'est mieux pour écouter la musique qu'une chaîne comme ça.
Demande à Lucie.
Ah bah, tu sais, je lui ai demandé avant-hier, parce qu'elle est venue dans mon bureau, et que je lui ai proposé d'écouter de la musique, elle n'a pas voulu.
Essaye de trouver...
Des enceintes. Ouais, t'as raison, je devrais peut-être... Mais tu vois, si je commence à écouter de la musique dans mon bureau au lieu de m'occuper de la direction de l'établissement, ça va pas être super.
Super.
Donc, vaut mieux que j'ai pas d'enceinte et que je sois obligée de travailler.
Travailler.
Ouais, c'est ça, travailler. Pierre, tu peux montrer ce que tu utilises, du coup? C'est tes affaires, là, hein?
Ouais.
Regarde, tu peux expliquer? T'as ton rasoir.
Ouais.
Un rasoir électrique.
T'as ta brosse.
Une brosse à cheveux.
T'as même un rasoir manuel. Et là, qu'est-ce que c'est?
Parfum.
Ouais. T'as une belle bouteille de parfum. T'aimes bien?
Ouais.
Ouais. T'as toutes tes petites affaires ici.
Ah, ça, on peut pas.
Ah oui, ça fait. Il n'y a pas le bouchon.
Pas le bouchon.
Sonia Chastenet. Alors vous êtes la directrice de la Landemaine, mais vous êtes aussi la sœur de Lucie, donc qui est résidente ici, qui a 48 ans.
Ouais.
Qui est votre sœur aînée.
C'est ça, elle a 3 ans de plus que moi. Bah, après, nous, on est 5 dans la famille. Donc, en fait, Lucie est la 3e et moi, je suis la 4e. Je pense que chaque position est très différente. Hein. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vécu la naissance de Lucie, le diagnostic. Enfin, voilà, moi, je suis née, le diagnostic était posé. Et j'ai toujours grandi avec ma sœur. Donc, oui, c'est une relation très singulière et c'est un fonctionnement familial très singulier. Dans le cas de Lucie, après, chaque relation avec une personne autiste est spécifique en fonction de son fonctionnement. Parce que sur les 24 résidents, ils sont tous très différents, même s'il y a des points communs. Dans le cas de Lucie, tout le langage passe par du langage corporel. Et du coup, ça veut dire que la relation avec elle, elle est entièrement par imprégnation émotionnelle, en fait. Et du coup, moi, j'ai grandi en fonctionnant par échange non-verbal permanent avec ma sœur. Après, je pense que l'équilibre de chaque famille est très différent parce que c'est vrai que moi, je me suis toujours dit que c'était une chance pour nous d'être 5. Quand je vois des familles où il y a un seul enfant non autiste, je pense que la charge morale, c'est autre chose. Après, voilà, c'est un mode de fonctionnement familial. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance heureux. Hein. Alors certes, tout dans le fonctionnement familial était complètement adopté à son rythme. Et puis, par exemple, il y a des périodes où elle se réveillait 10 fois par nuit. On est tous réveillés 10 fois par nuit. Et moi, quand j'étais petite, ma sœur, elle venait chercher ses vêtements dans ma chambre. Puis comme elle aime bien les déchirer une fois qu'elle a fini sa journée, voilà, je ne m'attachais pas aux vêtements parce que... Voilà, et c'est pas du tout négatif, c'est juste, elle se rend pas compte. Mais elle était joyeuse et très communicative, et du coup, voilà, on vivait tous avec la même joie de vivre. Le choc dans la famille, ça a vraiment été quand Lucie n'avait plus de prise en charge, et concrètement, Lucie n'a plus eu de prise en charge quand mes parents n'en ont plus créé. Pour le coup, c'est arrivé quand moi j'étais adolescente, et là, pour le coup, oui, c'est devenu très dur.
Alors c'est quoi là?
Alors ça, c'est le truc des chaussures.
D'accord. Et puis alors, il y a tous les résidents, c'est ça, avec leurs prénoms?
Alors, Oumou, Patrick, Rémi, Olympia, Baptiste et Florent et Victor.
D'accord.
Voilà. Et ça, c'est mon créé, ça, c'est la cuisine.
Claire Chastenet, vous êtes la fondatrice du foyer d'aide médicalisée de la Landemaine, dans l'Essonne, donc à quelques kilomètres de Gif-sur-Yvette. Comment il est né, ce lieu?
Comment ce lieu est né? Il est né par nécessité. En fait, il est né par nécessité. Notre fille...
Votre fille, c'est Lucie.
Ma fille, Lucie, voilà. A été victime d'un accident extrêmement grave à l'âge de 24 ans dans son établissement d'accueil.
Elle a aujourd'hui 48 ans.
Elle a 48 ans. Elle est arrivée dans un établissement et il n'avait pas du tout la formation et l'approche psychopédagogique adaptée à l'autisme. Et du coup, elle s'est dégradée beaucoup, de 36 manières. Et finalement, elle a commencé à faire des dégâts. Comme il disait, elle ne s'intègre pas dans les groupes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils la mettaient toute seule à déchirer des revues. Elle déchirait. Une fois, je l'ai vue, elle avait le désespoir dans les yeux, elle était en train de déchirer. Voilà. Et alors, après ça, elle s'est mise à déchirer ses vêtements. Absolument tous, depuis les chaussures jusqu'au manteau, tout, absolument tout. Alors, comme elle était toute nue, elle ne pouvait pas aller à table avec les autres. Donc, ils se sont mis à l'enfermer. Moi, je ne savais pas, hein, bien entendu que je ne savais pas tout ça. Et puis après ça, petit à petit, elle a cassé tous ses meubles, elle les a passés par la fenêtre. Elle avait une chambre au premier étage et finalement, c'est elle qui a essayé de s'échapper par le balcon parce qu'elle n'en pouvait plus d'être enfermée. Et comme elle n'a pas du tout une bonne évaluation ni de la distance, ni du danger, ni de ses propres compétences, eh bien, elle s'est écrasée 5 mètres plus bas et la colonne vertébrale a tout pris. Et elle a eu des opérations multiples sur la colonne vertébrale pendant plusieurs années. Du coup, elle est tombée dans une situation de crise d'épilepsie majeure, généralisée, et tout ce qu'elle avait acquis au niveau de son habileté physique, de son habileté motrice, elle pratiquait tous les sports, on peut dire, depuis les rollers jusqu'au ski, ou à la course à pied, l'équitation, tout ça, fichu. Elle était dans une situation, mais absolument horrible. Alors qu'elle avait grandi, j'avais mis sur pied, avant, les premières classes intégrées adaptées à l'autisme en milieu scolaire normal, c'est-à-dire à l'école publique. Ça s'appelait la classe spéciale, tout simplement. Donc vous voyez, elle n'avait pas accès au langage, mais grâce à ses sœurs aînées, grâce à la joie de vivre quotidienne, elle était beaucoup mieux dans sa peau, et c'était une enfant très joyeuse. C'était une enfant qui était hors norme, avec des difficultés d'apprentissage, mais une disposition pour apprendre. Une finesse sensorielle aussi, une grande finesse sensorielle. Alors la musique, la première musique qui a stupéfait l'hôpital Necker, quand ils ont voulu tester justement ces réactions particulières, on lui a fait écouter la sonate au clair de lune. Elle était bouleversée. Elle était bouleversée.
Ce matin, on a fait quoi ?
Nourri les
lapins. Et on n'a pas fait les poules. Non, il y avait encore également. Et il y avait deux œufs.
Deux œufs.
Qu'est-ce que tu as fait sur les œufs ? Ça a marqué quoi ?
La date.
Le
17 2024. Et ça, c'est Anis et Agassi. Anis et Agassi, c'est les dates.
Voilà, donc on s'est dit, il n'y a pas 36 solutions, il faut inventer quelque chose. Quelque chose qui puisse faire du bien, aussi bien à des autistes qui sont bien plantés, qui n'ont pas un parcours comme ça, mais aussi à ceux qui ont des difficultés énormes. Donc, qu'est-ce qui est bon pour eux ? Eh bien, un cadre naturel, c'est apaisant. La nature, le fait de s'occuper de choses dont on voit le résultat tangible. Nous, on parle de micro-professionnalisation, c'est-à-dire qu'ils apprennent des compétences qui sont très modestes, mais ils les apprennent et ensuite ils les assument. Ils sont dans un processus de travail, vraiment. C'est ça qu'on souhaite. Bien sûr, le travail au sens strict, c'est une fonction où vous êtes embauché, vous êtes rémunéré, et puis si c'est pas bien, vous êtes licencié. Voilà. Alors ici, on n'a pas l'habitude de licencier. On licencie personne. Et je veux dire, même ceux qui ont des troubles de comportement, notre mentalité, c'est pas de dire un tel, on fait un signalement parce qu'il a un comportement trop compliqué, et hop, on l'envoie ailleurs. Non, d'abord, il y a pas d'ailleurs. Et puis en plus, s'il a un comportement trop difficile, on doit se poser des questions sur notre prise en charge. On doit se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Il faut vraiment qu'on arrive à s'améliorer. On est au service de ces personnes, et pas l'inverse.
Thomas Bourgeron, directeur du laboratoire de génétique et fonction cognitive à l'Institut Pasteur.
Donc l'autisme, on appelle ça un spectre, j'aime pas trop le terme, mais c'est le spectre de la lumière. C'est des gens très très différents. Une psychologue anglaise qui s'appelle Lorna Wing, qui avait elle-même une fille autiste, a dit quand vous avez vu une personne autiste, vous avez vu une personne autiste. Donc ça veut dire que vous en avez vu qu'une et toutes les autres sont différentes. Après, il y a l'autisme qu'on voit à la télé, les Good Doctors et les détectives qui découvrent qui est le meurtrier, tout ça. Donc ça, c'est une forme d'autisme. On a tendance à montrer souvent que celle-là. On montre pas les personnes qui sont en très grande difficulté, qui ont besoin de beaucoup plus d'inclusion, et on travaille énormément sur cet aspect-là. Donc je vous ai parlé du projet R2D2, R2D2 Mental Health en anglais. C'est un projet européen qui, pour la petite histoire, n'a pas été financé par la France et qui a été financé par l'Europe. Et dans R2D2, on fait une recherche participative et on essaye de travailler avec les personnes autistes, avec les parents, pour essayer de mieux comprendre ce qu'elles veulent qu'on fasse dans la recherche. Et par exemple, la dernière revue, l'Annual Review of Genetics, une revue très sérieuse, on l'a écrite avec Steph, qui est une personne autiste et qui vient travailler avec nous pour mieux comprendre l'autisme avec une autre perspective que juste les chercheurs.
Steph Bonobrier, vous êtes autiste ?
Oui.
Vous êtes de quel côté du spectre ?
Jusqu'à présent, donc là, la nouvelle classification a ôté le terme de syndrome d'Asperger, mais sinon j'avais un diagnostic de syndrome d'Asperger. Le haut du spectre, le bas du spectre, effectivement, il y a des composantes qui sont communes chez toutes les personnes autistes, et puis après il y a une expression de l'autisme qui va grandement varier en fait d'une personne à l'autre. Ce qui va beaucoup jouer aussi, c'est la notion de savoir s'il y a des troubles associés, et puis comment s'expriment ces troubles. Parce que moi, j'ai aussi beaucoup de troubles associés. Et bien, moi, j'ai une épilepsie, par exemple, une épilepsie partielle. J'ai aussi un TDAH, trouble d'hyperactivité. J'ai un trouble anxieux. Donc, tout ça, ça impacte aussi, après, sur le fonctionnement. Ça peut être l'interface de communication. Même si je m'exprime bien, il y a parler, il y a communiquer. Et je peux très bien m'exprimer et communiquer sur les sujets que je maîtrise, dans des contextes aussi où la compréhension ou le fait d'être en phase avec ce qui est dit se passe bien. Et puis, dans d'autres contextes, ça peut devenir très vite beaucoup plus compliqué. Ça peut être un problème des fois de code, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, puis en fonction aussi de la personnalité de la personne. Il y a ne pas avoir les codes, et puis il y a avoir aussi en face de soi des gens très codifiés. Ça peut sembler paradoxal, mais il y a beaucoup de personnes autistes comme moi, on est d'autant plus vigilants aux réactions des gens. Parce qu'on nous a appris, voilà, quand les gens sont en colère, ils sont comme ça, quand les gens répondent pas, quand les gens... Et parfois, je suis pas sûre qu'on nous ait toujours appris de la bonne manière. Enfin, j'étais dans les tout débuts des groupes d'habilité sociale, et je vois encore parfois comment on apprend aux jeunes, et je trouve qu'on nous apprend parfois pas vraiment la vraie vie, quoi. Voilà, si par exemple, vous montrez des photos à des enfants, et vous leur dites, voilà, ça, tu vois, c'est quelqu'un qui est content, il sourit, et puis vous voyez toujours des personnes qui montrent les dents, bah, vous avez l'impression que le jour où vous voyez plus les dents des personnes, elles sourient plus, quoi. Et ça, c'est un exemple très basique. Mais du coup, quand vous êtes après dans des sphères un peu plus complexes, vous allez parfois chercher des repères qui sont un peu trop plaqués, en fait. Et vous vous rendez compte que les gens, il n'y en a aucun qui s'exprime de la même manière. Et on ne vous prépare pas assez aux imprévus, en fait. Et moi, je trouve que j'ai raté tout un pan comme ça de fluidité, en fait, par rapport aux gens quand on arrive dans des sphères un peu plus compliquées.
Allez, alors, aujourd'hui... Alors, on fait toujours le tableau des tâches en premier.
Audrey, éducatrice à la Lendemaine.
Aujourd'hui, on va faire un petit temps avec les lapins. On va brosser les lapins. Et après, on donnera à manger aux animaux. OK ? Alors, vas-y. Oui, donner à manger. Très bien, Oumou. Super. Donc, les petits pictogrammes, en fait, ça représente vraiment l'action qu'on va faire. Et ça permet aux résidents de voir un petit peu toutes les activités, la durée qu'elles vont avoir. Donc ça permet de se positionner dans le temps et de se positionner dans les activités. Alors là, par exemple, c'est la brosse. Donc on va aller brosser les lapins. C'est un temps de médiation. Là, c'est donner à manger. Donc on va donner à manger à tous les animaux qu'on a ici. Donc là, Oumou, elle a commencé à mettre les chèvres et les poules. Il nous manque les moutons. Les moutons, Oumou. Oui, vas-y. Voilà, Oumou est non-verbale. Donc elle comprend quelques pictos. Et les signes, un petit peu. Donc, en fait, on essaie d'assimiler tout ça pour que, justement, elle repère le picto qui est associé au signe et au verbal. Parce qu'elle nous comprend très bien. Baptiste, les graines. Je t'entends. Viens, approche ta chaise. Prends la chaise. Approche. Voilà. Tu veux, Baptiste, te prends celle-là.
C'est quoi comme lapin?
C'est un lapin bélier. Et il est angora. C'est super bien pour la sensorialité des résidents. C'est un poil très doux, très fin et surtout qui tombe tout le temps. Donc ça, c'est génial pour certains qui adorent jouer avec les poils. Oui,
Le plus confortable, ce n'est pas un établissement nombreux. Hein. Le plus confortable, c'est comme ils font en Caroline du Nord, des petites unités pour deux, pour trois, pour quatre.
Claire Chastenay.
Vivre dans la communauté, chacun a son activité, protégée ou non, dans les environs. Et on a un tuteur, et on a... Voilà, c'est ça, c'est une manière de vivre ordinaire, de citoyen ordinaire. Il y a des aides-soignants, il y a des animateurs d'ateliers, on a des psychomotriciennes, on a une ergothérapeute, on a des infirmières. Il faut toujours un accompagnement proximal pour ces personnes-là.
Et donc c'est quoi? C'est un professionnel pour deux personnes ou un pour...
On a un ratio d'encadrement de 1,30.
1,30, c'est-à-dire quoi?
1,3 personnel pour un résident.
Pour un résident.
Mais ici, il faut voir que c'est un internat. Hein. Donc ça veut dire qu'ils sont là jour et nuit. Voilà. Alors, un plein temps, c'est 35 heures. Et moi, je dis toujours, une vraie semaine, c'est 168 heures. C'est pas 35 heures.
Et Annie, c'est de l'autre côté. Là.
Ah oui.
Ah. Allez, vous mettez attachés, ils brossent les ânes, ils n'aiment pas toucher la patte d'ailleurs.
Élise, résidente à la Lendemaine.
On fait la médiation avec les ânes.
Oui.
On fait des câlins.
Des câlins, on caresse.
Du brossage.
Du brossage et on brosse les ânes.
Et on nettoie leurs
pieds.
Et on nettoie leurs pieds. Et après, on part en balade avec eux. À pied.
Oui, mais ils n'aiment pas vraiment toucher.
Alors, la médiation animale, c'est surtout le lien à l'animal, le soin. Prendre soin de quelqu'un d'autre, c'est aussi prendre soin dans un collectif, prendre soin de soi, l'estime de soi. Et puis, surtout, ça apaise.
Ça apaise beaucoup. Nous, on a des résidents qui peuvent être en trouble. Et en fait, quand on les amène à la ferme, que ce soit avec les lapins, avec les chèvres ou avec les ânes, l'animal, lui, est apaisé, donc le résident se calme. Élise, par exemple, quand elle va pas bien, elle se met dans le box des ânes et elle fait des gros câlins aux ânes pendant 5-10 minutes. Elle peut pleurer, elle peut s'apaiser, en fait, et après, ça va mieux.
Moi, avant, j'étais chargée d'études en protection de l'enfance. Et en fait, suite à une succession de difficultés de direction, d'établissement, j'ai repris la direction, mais c'était absolument pas un projet. Ça s'est fait uniquement parce que l'établissement était en difficulté et que c'est trop important pour moi que cet établissement aille bien. Donc, je l'ai rejoint. Moi, j'ai un parcours professionnel où j'ai été un peu à droite à gauche. Je vais là où la vie me mène et j'avais pas un projet forcément très précis. Ma préoccupation, c'était de pas m'emmerder dans la vie. Donc voilà, là, je suis servie. j'ai bien servi. Je me sens très bien ici. Mais c'est vrai que du coup, c'est un mélange, oui, de familial et de professionnel. En fait, quelque part, je suis dans une position intermédiaire où je comprends très bien le job des accompagnants parce que je connais l'accompagnement au quotidien, même si leur position est très différente, parce que de leur part, c'est un vrai choix d'engagement, que moi, c'est mon histoire, je ne la choisis pas. Et puis, quelque part, moi, en tant que directrice, en fait, j'aime bien l'humilité que ça impose, d'être la sœur d'une des résidentes les plus lourdement handicapées. Ça évite de croire qu'on sait tout. Et ça oblige à avoir l'humilité en permanence dans tout ce qu'on fait, de savoir qu'on va y aller à tâtons et qu'on a besoin de l'intelligence des autres. Je trouve que dans le secteur du handicap, il y a trop de certitudes.
Il y a la mise verte aussi. Lucie, tu viens s'il te plaît ? Gingembre. Voilà. Donc on va faire plusieurs parfums. Élise, dis-moi si j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut ?
250 de farine. Ça sent.
Oui.
De sucre en poudre, 100 grammes. 1000 ou 210 à un pincé de sel fin.
Ça peut venir stopper Matt.
Moi, je fais de l'éducatif. Donc, je les accompagne au lever, à la toilette, au petit déjeuner. Et ensuite, dans la journée, on leur fait faire des recettes qui correspondent à la saison. Donc là, on prépare ça parce qu'à la fin de la semaine, il y a Halloween. Et on va faire des gâteaux en forme d'araignée.
Ça fait longtemps que vous travaillez ici, vous, Fabrice ?
Ça fait depuis 2018, donc ça fait 14 ans que je suis dans le métier, et ça fait 14 ans que je suis avec les autistes. J'aime beaucoup les autistes, ils m'ont toujours intéressé par leur simplicité, leur spontanéité et leur complexité en même temps. Et ils sont hyper intéressants, et quand on gagne leur confiance, comme là, je demande à Lucie de faire quelque chose, elle le fait, sinon elle ne l'aurait pas fait. Surtout Lucie, c'est quelqu'un de très têtu, de nature. Lys, c'est pareil, Pierre, c'est pareil. Et moi, c'est ce que j'aime bien avec les autistes, c'est qu'ils n'aiment pas, ils le disent carrément.
Hop.
Tiens, Lucie, continue à mélanger avec la cuillère, s'il te plaît.
Il faut faire attention, en fait, dans un foyer comme celui-là, à ne pas présenter une vitrine en disant « Nous, on fait des choses formidables, regardez l'exposition de peinture qu'on a ». Non, il faut penser à chacun d'eux. Qu'est-ce que chacun de nos résidents fait et comment il s'accomplit, lui ? Est-ce que chacun d'eux est bien ? Est-ce que chacun d'eux est sur une ligne de vie qui a du sens ?
Ce mieux-être, Claire Chastenay, il passe aussi par des traitements médicamenteux.
Ils ont un passé, donc on a par exemple une résidente, elle a été à l'hôpital psychiatrique dès l'âge de 4 ans et tout le temps jusqu'à ce qu'elle soit ici. Donc évidemment qu'elle a des médicaments, évidemment. Ils ont tous, au fur et à mesure de leur péripétie, de leurs aventures malheureuses, voilà, ils ont tous des médicaments. Notre fille, par exemple, avant son accident, elle n'en avait pas. Maintenant, elle en a. Beaucoup, mais le moins possible. Ça, c'est sûr qu'on ne va pas régler les troubles de comportement avec des médicaments. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, pas du tout. Nous, notre manière de traiter les troubles de comportement, c'est la prévention. Faire en sorte qu'ils soient dans un contexte sécurisé et qu'on arrive à canaliser les comportements d'une façon positive.
C'est en mettre ta capuche. En mettre ta capuche, il pleut. Toi aussi, mets ta capuche, toi aussi.
Ouais.
Mets ta capuche, toi.
Attends, je te mets la tienne.
C'est insupportable. Non, mais j'aime pas dire et m'énerve les gens.
Les gens t'énervent.
Mais à son dédié, il y a beaucoup de monde, ça bouge pas. Attention, la boue, fais gaffe, la boue. Fais gaffe, la boue, ça glisse un peu. Les têtes un peu âgées, t'as 52. 50, 44, tu vieux que les autres. Calme-toi, ma belle. Regarde ce que tu fais. Allez, Alice, allez, Agathe. Et Audrey, elle est mignonne. Et Audrey, elle mange avec moi ce midi, on mange côte de bœuf.
Oui.
J'aime pas ça, j'aime pas trop.
Ben, c'est pas grave.
Les gens sont dingues. Les gens, ils oublient de mettre son clignotant, les voitures. Et Camus, c'est dangereusement.
Est-ce que t'aimes à la
longue ? Steph Bonobrier, vous avez été diagnostiqué très tôt, vous, ou tardivement ?
J'étais jeune adulte.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 26 ans.
Et auparavant, il n'y avait pas de signe avant-coureur qui avait alerté votre famille ou de...
Si, j'ai été psychiatrisée depuis l'âge de 12 ans. Donc, j'ai eu un parcours assez chaotique. Et mes parents, enfin ma maman surtout, voilà, m'avait toujours trouvé une enfant peu ordinaire, on va dire. Mais on n'était pas dans une époque très, très diagnostique. Enfin, en tout cas, pas comme on l'est maintenant. Pas du tout avec cette vigilance non plus, trouble du neurodéveloppement. Et c'est vrai qu'on a quand même été beaucoup et longtemps sur l'autisme avec l'association trouble du développement intellectuel. Le syndrome d'Asperger dans l'histoire de l'autisme est arrivé beaucoup plus tardivement. Moi, je suis rentrée en psychiatrie assez jeune, même si j'étais en préadolescence. Et le syndrome d'Asperger n'était pas encore officialisé à cette époque-là.
Quel âge vous avez, Steph ?
Là, maintenant, j'ai 48 ans. Donc, j'ai fait un long parcours psychiatrique, donc j'aurais pu ne pas sortir. De 12 à pratiquement le diagnostic.
De 12 à 26.
Donc là, j'ai vraiment tout vu, tout entendu. Des interprétations, en fait, de tous mes propos. Donc, je pense que je comprenais pas du tout. Du coup, je pensais que j'avais vraiment ma place à l'hôpital parce que je comprenais rien. Donc là, je me disais, effectivement, vu mon peu de compréhension de ce que me disent les gens, je dois vraiment avoir un gros problème. Ce que je pensais pas forcément plus jeune en étant enfant. Dans ma tête, c'est vrai, je pensais plus que les autres avaient des problèmes que moi. Bon, j'étais à l'hôpital, on m'a diagnostiqué une dépression adultoforme. Je suis rentrée pour de l'anorexie mentale. Donc, dépression, anorexie. Mais là, le discours qu'on me tenait, en fait, tous ces termes très abstraits et les interprétations, je me disais, tiens, je vois pas les choses comme ça. Mais comme j'avais des médecins en face de moi, je me disais, bon, c'est des gens brillants, quoi. Donc, et je comprenais pas non plus les autres jeunes avec qui j'étais par rapport à leurs troubles anorexiques et ce dont ils parlaient et tout. Là, je me disais... Je dois être même grave dans la pathologie dans laquelle je suis, donc j'étais complètement paumée. Par contre, je souffrais pas du tout de l'isolement. J'avais pas très bien compris quand on était en chambre isolée, voire en chambre forte, c'était pas bon signe. Moi, j'avais compris que la chambre isolée, c'était un peu la première classe, en fait.
Qu'est-ce qui vous a diagnostiqué à l'âge de 26 ans ?
J'ai été obligée de... Enfin, je suis partie à l'étranger parce que c'était juste avant la loi 2005 et il n'y avait pas les centres... diagnostic en Corse en trouble du développement intellectuel. Et moi, j'avais quand même un profil psychiatrique qui n'était pas simple. Alors, j'avais l'occasion de rencontrer Anne-Marie Coron, qui était orthophoniste au Québec. Et Anne-Marie, elle a lancé les premiers groupes pratiquement d'habilité sociale. C'était extraordinaire. Moi, j'étais déjà pré-diagnostiquée en France et j'étais super bien suivie. Donc, moi, ça m'allait bien. Mais je suis partie au Québec. En fait, pour aller, mais à la maison de l'ergothérapie. Et il y avait le professeur Motron qui était sur place. Et c'est vrai que l'ergothérapeute, quand elle m'a vue, elle m'a dit, il faut absolument que tu passes voir professeur Motron, parce que c'était évident aussi pour elle que c'était de l'autisme.
Donc c'est un psychiatre ?
Oui.
C'est ça, français. Qui, lui, travaille à Montréal ou au
Québec ? Oui, parce qu'il était quand même très en avance déjà sur la connaissance de l'autisme. Et il n'a jamais pu travailler correctement en France, à l'époque, quand on est un peu précurseur. Donc, il était déjà parti, s'expatrier au Québec. Et donc, il m'a vu et puis on a fait tour du diagnostic. L'explication et l'accompagnement que j'ai maintenant, il a beaucoup quand même aidé à plus sombrer, quoi, à arrêter déjà de sombrer.
Je suis né le 31 janvier 1979, un mercredi. Je le sais parce que dans mon esprit, le 31 janvier 1979 est bleu. Les mercredis sont toujours bleus, de même que le nombre 9 ou le bruit d'une dispute. J'aime la date de mon anniversaire parce que lorsque je visualise les nombres qui la composent, je vois leur forme lisse et ronde, comme des galets sur une plage. Il s'agit de nombres premiers. 31, 19, 197, 97, 79 et 1979, qui ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. Cette impression immédiate de galet me permet de reconnaître chaque nombre premier jusqu'à 9973. C'est ainsi que mon cerveau fonctionne. Je suis atteint de ce que l'on appelle le syndrome savant, un syndrome rare et peu connu avant le film Rain Man, récompensé par un Oscar en 1988. Comme Raymond Babic, le personnage joué par Dustin Hoffman, j'ai un besoin presque obsessionnel d'ordre et de routine, qui peut virtuellement affecter chaque aspect de ma vie. Daniel Tammet. Je suis né un jour bleu.
Daniel Tammet, vous vivez depuis des années en France, ici, à Paris.
Oui, c'est ça.
Vous êtes d'origine britannique et vous avez été diagnostiqué à l'âge de 25 ans. Pourquoi aussi tardivement ?
Je suis né et j'ai grandi en Angleterre. Mon enfance était dans les années 80. Dans les années 80, nous ne connaissions pas l'autisme. Il y avait des cas très rares, considérés très rares à l'époque, des personnes qui ne parlaient pas, qui ne s'exprimaient pas, qui n'avaient pas d'émotion. Penser que ces personnes étaient comme des prisonniers de leur condition. J'étais un enfant très aimé par mes parents, entouré. J'ai 8 frères et sœurs, donc beaucoup de stimulation à la maison. Mais c'était assez évident dès le plus jeune âge que j'étais différent de mes frères et sœurs, de mes camarades de classe. Je ne pensais pas comme eux, je ne ressentais pas les choses comme eux, je ne percevais le monde à leur façon. Pour moi, les mots étaient mes amis, je jouais beaucoup avec, les chiffres également. Pour moi, les mots et les chiffres ont des couleurs, des textures, parfois des personnalités, comme le chiffre 4, par exemple, qui est pour moi un chiffre timide. Ça me calmait de penser à ce chiffre. Je me sentais tellement différent, j'étais forcément étranger. Je me disais, mais peut-être je suis finlandais, parce que j'ai les yeux bleus, j'ai les cheveux blonds. Je ne me sentais pas anglais. Quand je parlais anglais, c'était comme si j'avais un accent. Les autres se moquaient de moi dans la cour de récréation. J'avais des crises d'épilepsie aussi, comme souvent, malheureusement, le cas chez des personnes autistes. Mais je parlais, je m'exprimais, je marchais. Donc, de ce point de vue médical, dans les années 80, en France comme en Angleterre aussi, il n'y avait pas lieu d'être diagnostiqué autiste. Et puis, avec le temps, j'ai évolué, le diagnostic a évolué aussi, s'est élargi. Et même si j'apprenais des codes, comment me faire des amis, comment regarder les gens dans les yeux, comment tenir une conversation, je me sentais toujours très différent. Et puis, arrivé à l'âge adulte, c'était important de savoir plus sur moi-même et sur mon cerveau atypique. J'avais la chance de rencontrer le professeur Baron Cohen, qui est à la tête du centre de recherche de l'autisme à l'université de Cambridge. C'était en 2004, donc j'avais 25 ans. Et c'est lui qui m'a diagnostiqué autiste Asperger, comme on disait à l'époque, savant. Mais il m'a dit que je me suis adapté extrêmement bien, que sans doute le fait d'être élevé dans une famille si nombreuse, si aimante, ça a beaucoup joué. Et puis le rapport au livre, le rapport à la lecture, parce que c'est en lisant que j'ai appris beaucoup l'empathie. J'apprenais à lire dans les pensées d'autrui, en lisant les pensées des personnages, dans les romans, dans les nouvelles. Et tout ça, ça m'a construit. Ça m'a donné aussi, par suite, une vocation, c'est d'écrivain.
Steve Monoubrier, une des grandes angoisses des parents d'enfants autistes, c'est qu'est-ce que va devenir mon enfant une fois adulte, quelle place il va trouver dans la société. Est-ce que vous, aujourd'hui, à 48 ans, vous avez le sentiment d'avoir trouvé votre place ?
Non, pas du tout. Non, parce que déjà, je ne sais pas si nous, je ne vais pas parler dans tout le monde, mais déjà se projeter, c'est quelque chose de compliqué. Moi, je vis au jour le jour,
Travailler.
Oui, mais je travaille, je suis auto-entrepreneur et je travaille un jour, je travaille pas le lendemain. Je fais plus d'associatif, donc moi, on me court après pour que je travaille. Je suis pas trop dans la vie, en fait, de tous les jours, quoi. Je suis uniquement dans mes centres et mes motivations. Et même ma sister coach, il y a pas longtemps, il y a 2 ans maintenant, elle m'a dit, mais je disais toujours, ouais, j'ai plein d'amis et tout. Elle me regarde, elle me fait, Steph, Facebook, en fait, je t'explique, quoi. On est obligé de m'expliquer que Facebook, en fait, on se demande en amis, mais c'est pas des amis, quoi. Enfin, on apprend ça en principe aux ados en groupe de socialisation, quoi. Et je leur ai appris moi-même, quoi, parce que j'ai animé des groupes de socialisation. Voilà. Quand je vais voir quelqu'un, s'il a besoin d'un truc, je suis beaucoup dans l'utilitaire, en fait. Mais s'il n'y a rien à faire, je ne sais pas de quoi parler, quoi. Je sais pas ce qui se passe, l'actualité, le monde, sortir, voilà, on me dit sortir, t'as besoin de quoi. Nous, ça nous coûte quand même une énergie folle, cette anticipation. Je veux dire que même du coup, si on arrive à bien s'adapter, avant, ça nous a bouffé un temps, c'est très chronophage énergivore, et après, il faut 3 jours pour s'en remettre. Donc la vie d'une personne autiste qui arrive à s'adapter, en fait, hein, les super hauts niveaux, comme vous dites, en fait, on vit 1/3 de temps pour 2/3 entre le moment où on se prépare et le moment où on récupère. Est-ce que c'est une vie, quoi ?
Thomas, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Dans R2D2, tout est explicite. Moi, j'utilise souvent, et même beaucoup trop souvent, le second degré. Et donc, j'ai appris avec Steph, avec d'autres personnes autistes, qu'il fallait que je sois explicite.
Thomas Bourgeron.
On fait des pauses d'une demi-heure, alors que normalement, les scientifiques, au bout de 10 minutes, ils repartent dans un autre talk. Là, on fait des pauses d'une demi-heure pour que les gens puissent prendre le temps de se reposer. Et c'est très bien pour tout le monde. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est qu'en fait, d'écouter les personnes neurodiverses, ça a aidé énormément. Ils nous ont demandé de faire un petit livret de qu'est-ce qui s'était passé dans l'année. Et ça sert tout le monde. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces personnes qui voient le monde très différemment de nous. Et on a vraiment du mal à comprendre comment elles voient le monde. C'est tellement pour nous assez inné de reconnaître que quelqu'un, quand il monte les dents, il va soit sourire, soit être pas très sympathique. Eh bien ça, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à faire la différence.
5, 7, 7, 9, 1, 1, 0, 5, 1, 7, 2, 1, 0, 2, 8, 7, 4, 8, 1, 9, 9, 1, 7, 2, 1, 0. L'une des questions récurrentes que l'on me posait était celle-ci. Pourquoi apprendre autant de décimales d'un nombre comme pi ? Ma réponse était, et est encore aujourd'hui, que Pi est pour moi quelque chose de très beau et tout à fait unique. Comme Mona Lisa ou une symphonie de Mozart, Pi est sa propre raison pour être aimé. J'ai commencé à travailler en décembre 2003, avec 3 mois devant moi pour apprendre toutes les décimales nécessaires pour battre le record, 22 500 et plus. Au milieu de l'après-midi, j'arrivais à la fin de mon voyage numérique. Après 5 heures de récitation, je me sentais épuisé et me réjouissais d'en voir le bout. C'était comme si j'avais couru un marathon dans ma tête. À 4h15, ma voix trembla de soulagement quand je récitais mes dernières décimales. 6, 7, 6, 5, 7, 4, 8, 6, 9, 5, 3, 5, 8, 7, et Fishing, que j'avais terminé. J'avais récité 22 514 décimales de pi sans faire d'erreur. En 5h09, nouveau record d'Angleterre et d'Europe. Le public me fit un tonnerre d'applaudissements et je remerciai les examinateurs d'avoir surveillé l'épreuve. On me demanda de venir dehors, de poser pour des photos supplémentaires et l'on m'offrit le premier verre de champagne de ma vie.
C'est quelque chose qui fascine plein de gens et qui capte les médias et c'est très bien.
Daniel Tammet.
Comme ça capte Kate Bush. La chanteuse Kate Bush, elle a écrit une chanson sur moi et sur la récitation de Pi. Parce qu'il y a quelque chose dans cette récitation qui est universelle. L'envie d'un homme, d'un jeune homme, d'aller vers l'infini. Et de trouver dans les chiffres sa voix, une façon de parler, toute une poésie visuelle, très colorée, très émotionnelle. Ça raconte plein de choses sur moi-même, sur mon parcours. Et en trouvant ces mots dans les chiffres, paradoxalement, mais je trouvais tout un langage qui m'échappait sinon. Et quand je restais les chiffres de décima de pi, je n'avais pas d'accent. C'était la seule fois de ma vie où je parlais sans accent. En pi, c'était comme si je récitais ma langue maternelle.
Mon expérience visuelle et émotionnelle des nombres correspond à ce que les scientifiques appellent la synesthésie. Il s'agit d'une confusion neurologique des sens, très rare, le plus souvent la capacité de voir les lettres et ou les nombres en couleur. Le nombre 1, par exemple, est d'un blanc brillant et éclatant, comme quelqu'un qui dirige le faisceau d'une lampe torche directement dans mes yeux. 5 est un coup de tonnerre, ou le son des vagues qui se brisent sur des rochers. 37 est grumeleux comme du porridge. Alors que 89 me rappelle la neige qui tombe. Lorsque quelqu'un me décrit un bel endroit qu'il a visité, je me souviens de paysages numériques et de la manière dont ils me rendent heureux. C'est ainsi que les nombres m'aident à être plus proche des autres.
Les capacités spéciales des autistes, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'une des caractéristiques vraiment de l'autisme prototypique, c'est qu'ils sont bien meilleurs dans certaines choses que dans d'autres.
Laurent Motron, professeur titulaire de la chaire de recherche en autisme à l'Université de Montréal.
Je reprendrai l'exemple des lettres et des chiffres. Un enfant non-verbal, avec une sélectivité alimentaire terrible, qui fait des crises terribles, qui a des stéréotypies auxquelles il peut passer plusieurs heures par jour, va connaître son alphabet 2 ans avant son frère, qui est neurotypique. Bon, c'est une capacité spéciale. Ce qu'on peut faire avec ça, comment ça l'amène au langage, c'est une autre histoire. Mais ça fait partie de l'autisme de se focusser sur certains aspects de l'information qui vont traiter plus vite et mieux. C'est ça, les capacités spéciales. Alors, quand on les arrose, quand on les laisse pousser, ça peut donner des choses effectivement phénoménales. J'ai commencé ma carrière de recherche en regardant dessiner en 3 dimensions un autiste pur, adulte, hein, qui avait une 30aine d'années, faire des dessins en perspective, dont on a montré à l'époque avec Jacqueline Nadel que des étudiants d'architecture très très doués en dessin ne pouvaient pas faire comme lui. Et c'était très important. Mais ça consistait pas à dire que tous les autistes pouvaient dessiner. Sauf que l'idée, c'était de tirer ce fil-là et de voir, mais qu'est-ce qui est différent dans son cerveau ? Et là, ça a été toute une histoire pour voir que, oui, il finissait à 30 ans, 40 ans, par y avoir des différences qu'on peut maintenant montrer en imagerie cérébrale, des différences dans la hiérarchie entre les différentes fonctions cérébrales. Ça, on le trouve, mais ce n'est pas vraiment des anomalies. Il faut dire, les autistes, ils ont un cerveau normal, organisé d'une autre façon. Et les autistes savants, ben, ils sont comme n'importe quel expert. Vous savez qu'on peut mettre en évidence que les chauffeurs de taxi londoniens ont une partie de leur cerveau qui est un petit peu plus grande que les autres. Eh bien, les autistes, on peut montrer des choses comme ça quand ils ont fait quelque chose énormément. Mais c'est vrai aussi des musiciens. Un musicien expert a effectivement une organisation cérébrale différente.
Jeudi 25 mai 2028. Jeudi 29 novembre 1945. Vendredi 20 mai 2028. Vendredi 30 novembre 1945. Jeudi 23 mai 1963. Jeudi 1er janvier 1920.
Et devant le désastre des techniques d'intervention, leur incapacité profonde de le changer, ce cerveau autistique, ben je pense qu'on a intérêt à suivre cette voie-là, de regarder comment ces capacités spéciales fonctionnent pour s'en inspirer dans nos techniques d'apprentissage, pour rentrer dans cette petite porte qui nous ouvre, comme on a fait pour les sourds en leur laissant parler avec les mains.
Jeudi 5 janvier 2034, jeudi 29 avril 1965, vendredi 6 janvier 2034, vendredi 30 avril 1965, samedi 20 août 2005.
Quand je parlais de ma propre langue maternelle, l'anglais, comme je disais à l'école, on m'a taxé d'étranger, comme si j'avais un accent dans ma propre langue maternelle. Donc je n'avais pas de voix, vraiment. Et quand je commençais à écrire, c'est comme si pour la première fois, je trouvais une voix, ma voix. Et quand j'ai rencontré Jérôme, qui était mon lecteur, avant de devenir mon compagnon puis mon mari, il a lu, il a beaucoup aimé Je sonne un jour bleu en français, il m'a contacté, s'en ayant suivi à toute une correspondance, on s'est rencontrés, par la suite, on est tombés chacun amoureux de l'autre, un coup de foudre mutuel, et par la suite, on a décidé de s'installer en France, il est français donc, il a appris que j'étais fâché avec la fiction depuis de nombreuses années parce que je me retrouvais plus dans la fiction, je me trouvais plus dans les romans. Je me disais, c'est que des des histoires écrites pour les personnes de classe supérieure, c'est que des histoires qui disent des choses qui ne me concernent pas, qui ne me parlent pas. Je ne me vois pas dans ces récits. Donc il a pris un livre, un roman de Dostoïevski, qui s'appelle L'Idiot, qui parle des crises d'épilepsie que j'ai eues, moi, enfant. Il m'a dit, on va lire ce livre ensemble. Donc, c'est ce jour-là, en lisant L'Idiot à haute voix, avec mon mari, à tour de rôle, en français, je me disais, mais je peux faire autre chose que simplement écrire le récit de ma vie, comme je l'ai fait quand je suis né un jour bleu. Et c'est comme ça que par la suite, j'ai pris des études supérieures, et puis également d'écrire dans plusieurs genres, d'écrire des essais, des reportages, le journalisme, la fiction, et à chaque fois en me disant, c'est un nouveau défi. Aujourd'hui même, je trouve que c'est le tour des personnes neurodivergentes, comme on les appelle aujourd'hui, les personnes neuroatypiques, les personnes autistes, de raconter aussi, non seulement leur vie, c'est important aussi, je l'ai fait il y a 20 ans, donc je suis un jour bleu, mais aussi le monde, de raconter le monde, d'écrire le monde. Le monde tel qu'il existe pour les personnes autistes, mais à travers le regard, le prisme des personnes autistes.
De manière générale, les professionnels, ils sont beaucoup justement sur nos comportements visibles et on est toujours un peu dans cette vision médicale du handicap avec qu'est-ce qu'il faut rééduquer pour que les autistes s'adaptent à la société.
Steph Bonobrier, consultante et formatrice spécialisée dans les troubles du spectre autistique.
Pourquoi ils sont en décalage, pourquoi ils ne comprennent pas, et les stéréotypies, pourquoi ils font des gestes bizarres. Et du coup, on n'est pas toujours sur des choses de fond. Et pendant un moment donné, et encore maintenant, il y a souvent la guerre entre ceux qui disent « bon, bah, faut que la société s'adapte à nous et puis vous nous laissez être comme on est, quoi. » Et puis on avait d'un autre côté... Des fois, une société ou des médecins, des chercheurs qui disaient « Ben non, on va trouver des médicaments ou des méthodes pour les adapter. » Voilà, il y avait ces deux côtés un peu très figés l'un contre l'autre. Moi, je me dis que de toute façon, tout le monde doit s'adapter un peu. Enfin, toi, tu sors de chez toi, ben, tu vas au travail. T'es pas comme la même personne que quand t'es dimanche chez toi tout seul. Enfin, à différents niveaux, tout le monde s'adapte un peu. Donc, je vois pas pourquoi on demanderait aux personnes en situation de handicap aucun effort d'adaptation. À la limite, je pense que si on ne demandait rien, ben moi, ça me gênerait. Enfin, là, je me sentirais moins que les gens ordinaires, en fait.
Là, il y a des chambres de tout le monde. Il y a des chambres.
Montre ta chambre à toi, Elise, parce que les autres, c'est privé.
Et on a un chat aussi, une chatte.
Ah oui, tu peux.
Ça, c'est ma chambre, et là, c'est ça, tout ça, c'est je le fais. Et ça, c'est mon iPad que je chevais d'habitude. Un iPad, ça. Et ça, c'est mon téléphone, ça, c'est un casque. Et ça, c'est un centre. J'ai plein de choses ici. Et ça, il y a des tableaux et il y a aussi un cheval. Il y a tout. Et ça, c'est mes chaussures que je mets pour ranger mes chaussures. Les voitures sont là et je mets dans l'intérieur.
Et d'où ça vous vient, cette passion pour les voitures?
Oui, j'aime beaucoup toutes ces voitures. Je ne connais pas toutes ces voitures. Japonais, c'était Ikea et ça n'existe plus. Toutes ces voitures. Je connais tous des Renault, la Mercedes Royale, je connais tout.
Et je vous ai entendu dire tout à l'heure, Elise, vous avez dit, ouais, Sonia, elle a un amoureux et pas moi.
Moi et Christophe.
Et moi, ouais, Christophe. Vous avez un amoureux?
Ouais, j'ai pas d'amoureux parce que je suis maladie. L'amoureux de moi, Jérôme, tu viendras dormir avec moi, Jérôme.
Oh là, avec tous les doudous?
Ouais, si tu veux, tu viendras avec moi, Jérôme. Si tu aimes vraiment venir, si j'ai un amoureux de toi, tu es amoureux de moi, Jérôme. Si tu aimes vraiment, vraiment avec toi, c'est une moitié avec toi. Hein.
Une chose qu'on n'a pas beaucoup abordée depuis qu'on est arrivé ici, c'est... bon, ils ont chacune leur chambre. Voilà, qu'est-ce que vous faites des élans affectifs qu'ils peuvent avoir? Peut-être d'élans amoureux, de la question de la sexualité?
Alors, c'est un sujet, très honnêtement, sur lequel moi, je ne me suis jamais penchée, parce que je n'entends pas parler. Alors oui, la sexualité, elle est là, mais... En fait, sous forme de masturbation, c'est pas... Le côté relationnel, en fait... survient pas trop. Vous avez entendu tout à l'heure une résidente, Élise, qui vous parlait de cette notion de petite amie. Pour elle, en fait, c'est une notion abstraite. Vous voyez, en fait, dans ce qu'elle vous évoque, pour elle, ça veut dire avoir quelqu'un avec qui on va faire des choses. Et c'est pas forcément une notion très différente. Ils ont intégré que, voilà, en général, c'est homme-femme. Du coup, ils vont rester très normatifs sur ce sujet, parce que c'est ça qui permet de comprendre de quoi il s'agit. De se dire, tiens, quand c'est un homme et une femme ensemble, amoureux. Et que c'est quelque chose qui a l'air d'avoir une forme d'exclusivité. Mais le côté avoir un lien affectif exclusif pour eux n'est pas parlant, en fait. Et voilà, alors ça, je pense que ça dépend complètement de où se positionnent les personnes par rapport au TSA. Ceci dit, quand vous... Je ne sais pas si vous avez déjà eu les échanges avec des personnes avec des compétences intellectuelles voilà, parfaitement moyennes et qui mènent leur vie de manière autonome. En général, la question, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'ils ont un fonctionnement relationnel, notamment de couple, en général tout à fait singulier par rapport à nos conventions sociales ordinaires. Bon, ceci dit, je ne sais pas ce qui reste aujourd'hui de normalité en la matière, mais voilà, c'est pas... Je pense que pour les personnes autistes, c'est un code social parmi d'autres, et ceux qu'on a ici. Mais c'est d'ailleurs un truc qui est assez fascinant, hein, que moi j'adore dans le monde de l'autisme, entre guillemets, c'est qu'en fait, tous nos codes sociaux, ils n'existent pas. Donc on vit en apesanteur de conformisme.
Alors, on a mis trois là, on a mis trois.
Ok, après, très
on a
bien.
Et là-bas.
Je te laisse faire le grand réfectoire.
Oui,
moi, je vais m'occuper des petits.
Ouais.
Alors ça, attends, ça c'est pour les petits. Là-bas, il te faut combien d'assiettes ?
On passe notre temps à faire le tri des codes sociaux pour se demander lesquels méritent d'être maintenus en fait avec nos résidents parce qu'ils ont un intérêt pour la qualité de vie collective et lesquels ne présentent aucun intérêt, donc on leur fiche la paix.
Il y a un exemple qui vous vient spontanément à l'esprit ?
Bon, par exemple, dire bonjour, on les embête pas des masses parce qu'ils n'en voient pas forcément l'intérêt. Mais on en fait plein, le « ça va » aussi. Alors, il y en a pas mal qui l'ont intégré qu'en fait « ça va », ça veut rien dire et qu'il faut juste répondre « oui ». C'est pareil, la manière de s'habiller. Allez expliquer à une personne autiste, ma sœur, j'ai laissé tomber depuis longtemps, elle veut rentrer tous les vêtements, y compris un gros pull très épais, à l'intérieur de son pantalon et tout remonter là. Allez lui expliquer que ça fait pas chic selon des critères qui sont totalement artificiels. Et après, c'est valable pour plein d'autres choses dans les comportements en fait, du quotidien. On se rend pas compte, nous, à quel point notre vie elle est structurée par des conventions sociales. Et c'est très précieux pour plein de choses, mais c'est aussi très complexe pour les personnes autistes, qui ne les intègrent pas du tout parce qu'ils n'ont pas le sens de l'implicite.
C'est en ça que vous dites que ça a été une richesse, finalement, de grandir aux côtés d'une... Alors, même s'il y a eu ce passage, malheureusement, où elle s'est... il y a eu cet accident, mais ça vous a fait bouger par rapport à l'idée que vous faisiez de la norme ou de...
Alors, j'en ai jamais eu. Parce que moi, j'ai grandi... En autistan, je pense que c'est Joseph Chevanec qui parle d'autistan. Moi, j'ai grandi dans cette culture-là. Et puis, vous savez, dans les familles où il y a une personne avec autisme sévère, on a tous un pied dans le spectre. Donc, c'est même pas possible de dire, en fait, quelle est la part de culture autistique et quelle est la part de profil cognitif, parce qu'on a baigné dedans. Moi, le rapport aux normes, j'ai intégré depuis que je suis toute petite qu'il y a tout un ensemble de choses qu'il faut faire pour faire plaisir aux autres. Et je respecte les codes parce que je n'ai pas envie de me compliquer la vie dans les relations sociales. Mais je ne saurais même pas dire comment j'aurais abordé les relations sociales si je n'avais pas une sœur autiste. Ce n'est pas possible, j'ai grandi avec. Par contre, oui, c'est une immense liberté. Par exemple, Lucie, quand j'avais 12 ans, je ne vous raconte pas comme ça me mettait mal à l'aise, elle a eu une période où vraiment, il a fallu qu'elle porte des soutifs, puis elle détestait ça. Et du coup, elle voulait se renseigner, savoir si les autres femmes, elles subissaient aussi ce truc pénible. Donc en fait, à chaque fois qu'elle pouvait, elle allait attraper les femmes et elle tirait pour regarder si elles avaient un soutif. Mais n'importe qui dans la rue. À l'adolescence, ça vaccine contre le conformisme. Et contre la gêne. À une époque, n'oublions pas, où l'autisme était considéré comme un problème dû à la frigidité de la mère et baratin psychanalytique. Donc vous pensez bien que ce genre de scène s'était accueilli avec très peu de bienveillance. Voilà, donc c'est pareil, ça vaccine contre l'idéologie. Et ça, je n'en remercierai jamais assez ma sœur.
Victor, il a un clavier dans sa chambre.
L'autisme, c'est vraiment un univers particulier. Il y a cette hypersensibilité qui est omniprésente, il y a cette absence de codes sociaux dont je parlais. L'hypersensibilité, elle est autant émotionnelle que sensorielle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais réagissent à des tout petits détails, y compris dans des petits mots qu'on peut dire. Enfin voilà, je trouve ça extrêmement touchant. Oui, je pense aussi que ça modifie le centre d'attention dans les rapports humains. Ça aussi amène à centrer ce qui est important pour nous, ce qui nous touche, ce qu'on va chercher dans les relations, en fait.
Et donc, vous prêtez plus attention à quoi aujourd'hui ?
À ce qui se joue émotionnellement. Mais c'est pas aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Souvent, d'ailleurs, je ne me rappelle pas exactement de ce que m'ont dit les personnes. Je retiens ce que ça dégageait émotionnellement.
Ici, on peut poursuivre sa vie à la Landemaine jusqu'à la retraite. Parce que les résidents, ils ont, on va dire, entre une vingtaine d'années, 22, 23 ans et la cinquantaine, il me semble.
Oui, alors, c'est Lucie qui est la plus âgée aujourd'hui. En théorie, il existe encore une séparation entre les établissements adultes et les personnes âgées. Mais de sortir les résidents pour les mettre dans des maisons de retraite à 60 ans, ça n'a strictement aucun sens. Ça mettrait en difficulté les établissements d'arrivée et ce serait un drame dans le parcours de la personne. Et d'une manière générale, il faut avoir une chose en tête avec l'autisme. Et ça, c'est valable pour tous les degrés du spectre. C'est qu'en fait, une personne peut être paisible, structurée et plutôt facile à vivre quand elle vit dans un environnement qui est bien adapté. Et sa vie peut être un cauchemar pour elle et pour tous ceux qui sont à proximité quand elle est dans un environnement pas adapté. Par exemple bruyant, par exemple avec des horaires très imprévisibles, avec des activités non expliquées et non anticipables. Et du coup, concrètement, il y a de quoi mettre en difficulté toute une maison de retraite de 50 places avec une seule personne comme Lucie. Donc ça n'a strictement aucun sens de s'imaginer qu'on aille la mettre ailleurs un jour. Et les autres personnes qui sont ici aussi. C'est toi qui choisis les morceaux que tu joues ? Ouais, celui-là, c'est un que tu aimes beaucoup.
Merci à Claire et Sonia Chastenet, Audrey, Fabrice, Élise, Olympia, Lucie, Julie, Oumou, Baptiste, Pierre, Victor et à tous les résidents et personnels de la Landemaine. Merci également à Thomas Bourgeron de l'Institut Pasteur et à Steph Bonobrier. Enfin, merci à Daniel Tamette ainsi qu'à Laurent Mautron. Extrait de « Je suis né un jour bleu » de Daniel Tamette, lu par Olivier Martineau. Prise de son, Thomas Robin, Yvan Charby, Cédric Châtelut, Xavier Lévesque. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Johanna Bedeau et Emmanuel Laurentin. Autisme, les combats d'une vie. Épisode 4, quelle place pour les adultes autistes. Un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Cécile Lafont.
Merci Victor.